Chapitre 27e. Ce matin, vous avez eu le premier matin d'Adam. Je vais écouter ça aussi sur Internet. Cela devait être intéressant. Le premier matin d'Adam. Mais cet après-midi, elle dit à son mari, « Je suis dégoûtée de la vie. » Et ce verset, je l'ai trouvé dans la Bible. Genèse, chapitre 27e, à partir du verset 41e. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. » On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, « Voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusque la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour ? » Rebecca dit à Jacob, dit à Isaac, c'est son mari, « Je suis dégoûté de la vie. À cause des filles de Heth, si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ? » Et Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. » « Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. » Isaac fit partir Jacob qui s'en alla Padam Aram auprès de Laban, fils de Bethuel l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padam Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. » Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padam Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père, et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, adoré à tout jamais. Amen. C'est à une partie de sa vie que Rebecca dit à Isaac, son mari, « Je suis dégoûté de la vie, à quoi me sert la vie ? » Il peut y avoir, à une période de notre vie, où l'on peut dire à son mari, je suis dégoûté de la vie à cause d'eux, et à quoi me sert la vie. Les questions sont multiples, et pourtant, quand nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 25e, et à partir du verset 20e, nous avons là l'histoire d'un mariage qui est parti sur de bonnes bases. Parfois, un mariage peut partir sur de mauvaises bases, et puis au cours, retrouver de bonnes bases. Et puis on peut partir sur de bonnes bases et aussi se retrouver dans une période difficile. Isaac savait qui était son père. Son père était Abraham. Isaac savait l'histoire incontestable entre Agar, entre Sarah. Il connaissait l'histoire de ses parents. Mais ce que l'on remarque, c'est qu'il savait aussi que lui était le fils de la promesse et qu'Ismaël, c'était le fils de la chair, puisqu'on sait qu'Agar était une servante de l'Égypte. Elle avait été remise en cadeau avec bien d'autres cadeaux devant Abraham qui avait fui le pays de Canaan et qui s'était réfugié en Égypte. Donc il savait ce qu'était aussi le fruit de la stérilité dans le couple d'Abraham et de Sarah. La Bible nous parle aussi comment Eliezer fut envoyé par Abraham pour chercher une femme pour Isaac. On remarque qu'Isaac avait eu un héritage, bien sûr, financier extraordinaire, mais il avait aussi un héritage spirituel. Avoir un père, avoir une mère qui ont un héritage spirituel est d'une grande bénédiction quand on est dans une telle famille. Isaac, bien sûr, n'avait pas la même envergure de foi que son père. Mais la Bible nous montre aussi qu'Isaac, âgé de 40 ans, il a perdu sa maman Rebecca. Et ce fut pour lui un grand choc de perdre sa maman. Perdre sa maman, c'est toujours un choc, quel que soit l'âge. Là, j'ai appris il y a quelques jours le décès de l'une des sœurs de ma maman. Elle était âgée de près de 102 ans. Donc, voyez-vous, les enfants qui sont des adultes, eh bien, ils sont dans la peine de ce que leur maman est partie. Il n'y a pas d'âge, on aime sa maman, et c'est là quelque chose qui est naturel. Et donc, Isaac est le garçon qui nous montre qu'en réalité, son cœur fut dans la souffrance. Et quand Eliezer est allé chercher pour femme quelqu'un de la maison, eh bien, la Bible nous montre que quand il vit Rebecca, Rachel. C'est Rachel. Il fut en réalité, oui, c'est Rebecca. Il fut en réalité consolé dans son cœur. Rebecca lui a apporté une consolation dans son cœur. Ce qui veut dire que le mariage fut une bénédiction dans ce couple. Ce fut quelque chose d'extraordinaire. Et au bout d'un certain temps, eh bien, Isaac a remarqué qu'en réalité, sa femme, elle aussi était stérile. Et on voit que cet homme, âgé de 40 ans, c'est un problème lorsque on découvre que l'un ou l'autre est stérile. Il n'y a pas que la stérilité chez la femme, ça existe aussi chez l'homme. Mais si vous allez sur le continent africain, par exemple, lorsqu'une femme, elle est stérile, et très souvent, c'est pas toujours elle, mais c'est le mari, mais on cherche pas à savoir, c'est toujours en général la femme. Et à partir de là, va y avoir des pressions terribles pour que le mari prenne une autre femme, qu'il abandonne sa femme. On voit bien dans la Bible, aussi Élisabeth, c'était une honte pour elle vis-à-vis des hommes. Mais Dieu a retiré cette honte, non point qui venait de lui, de l'Éternel, mais des hommes. Et donc, Isaac, nous dit la Bible, il va implorer l'Éternel. Il va implorer l'Éternel et la Bible me montre quand il va devenir père, il a 60 ans. 60 moins 40 égale 20 ans. Pas besoin d'avoir fait de maths ou autre, c'est très simple. La soustraction se fait tout de suite. 20 ans. 20 ans de prière. 20 ans d'intercession auprès de l'Éternel. Et la Bible nous montre que l'Éternel l'exauça. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur la prière. Pourquoi m'arrêter? Parce que c'est quelque chose d'important de pouvoir prier, de pouvoir intercéder au trône de la grâce de Dieu et de savoir que celui que l'on prie, il est tout puissant pour changer les choses, pour changer les situations et pour faire grâce, que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, ne perdons point courage, quelle que soit la situation, Dieu est tout puissant pour exaucer notre prière. Il implora l'Éternel et la Bible nous montre l'Éternel l'exauça. Un foyer comblé, papa 60 ans, c'est extraordinaire pour ce couple. Et puis, tout à coup, lorsque les semaines passèrent, la Bible nous montre que les enfants qui étaient dans son sein, eh bien, se sont heurtés. Et elle dit, mais s'il est enceinte, pourquoi suis-je enceinte? Pourquoi suis-je enceinte? Voyez-vous, parfois on peut se poser des questions, pourquoi? Pourquoi suis-je enceinte? Bien-aimé, dans la foi, ça devait être quelque chose d'incroyable dans son sein. Et la Bible nous dit qu'elle est allée consulter l'Éternel. Elle dit au Seigneur, mais pourquoi cela? Pourquoi? Pourquoi? Bien sûr que si vous êtes enceinte et que ça se heurte dans votre sein, consulter l'Éternel, puis consulter aussi un gynécologue. Ce sera peut-être aussi bien. Mais là, c'était comme cela. Et Dieu révèle qu'en réalité, il y a deux nations qui sont dans son ventre. Elle ne connaît pas le projet de Dieu à l'égard de ses deux enfants, et Dieu lui révèle ce qui va se produire Deux peuples sortiront, se sépareront sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand seront assujettés au plus petit. Elle a donc une réponse extraordinaire. Et puis, elle peut en parler aussi avec Isaac. Isaac connaît les promesses faites à son père, Abraham. C'est là quelque chose d'extraordinaire. Comment on voit le Seigneur qui va agir d'une manière particulière. Et la Bible dit que le jour arriva où elle devait accoucher. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob, que le nom du Seigneur soit glorifié. Incroyable, incroyable. Mais les choses passent, les bébés se développent, grandissent, et puis c'est la Bible qui le dit au verset 27e, ses enfants grandir. On aime voir ses enfants grandir. On aime les voir, ses enfants grandir. On aime les voir. Nous avons le privilège d'avoir 5 enfants. Nous les voyons grandir. Et dernièrement, nous avons une grande réunion familiale. Et je disais à mon aîné, « Eh bien, cette année, tu vas prendre tel âge. » Et je disais à l'autre, « Tu vas prendre tel âge aussi. » Et à la fille, tu vas prendre tel âge. Et à l'autre fille, tu vas prendre tel âge. Et au dernier, tu vas prendre aussi tel âge. C'est extraordinaire. Les enfants grandissent. Et nous, on ne les voit pas toujours grandir. Mais ils grandissent. Et la Bible dit qu'Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Formidable. Et puis Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Un homme tranquille. Un homme qui est tranquille. Moi, je me souviens quand nous avons eu notre premier enfant, avec mon épouse, on a idéalisé. Il sera comme ça, il sera comme ça, il sera comme ça, il sera comme ça. Et c'est normal d'idéaliser. Hein? Et puis, ça a été formidable. Et quand mon épouse a eu le second, on a idéalisé pareil. Il sera comme ça, il sera comme ça, il sera comme ça. Mais il n'était pas comme on avait idéalisé. Personnalité différente. Ça change. Hein? Et puis, quand on a eu le troisième, alors là, on n'a pas idéalisé, on a laissé les choses. Et quand vous avez 5 enfants qui grandissent, c'est extraordinaire. Vous avez 5 enfants autour de la table, le midi, le soir, mais c'est une très très belle famille. Gloire à Dieu, c'est une très très belle famille. Mais vous n'avez pas l'air d'être d'accord avec ça. Ouais. Oh, ils grandissent. Eh oui, quand ils grandissent, c'est pas quand ils sont tout petits. Il y a les étapes. On appelle ça l'adolescence, la crise. Après, c'est la jeunesse. On a l'impression qu'on est toujours en crise, hein? Toujours. Mais en est-il grandissent. Et vous avez remarqué qu'on a moins d'autorité, entre guillemets, parce que le respect de nos enfants amène l'autorité sur les parents. Mais en réalité, ils forgent leur personnalité. Et puis là, on voit un qui est moins tranquille et l'autre qui est plus tranquille. C'est vrai. Ça a été la même chose pour nous. Même chose pour nous. La Bible nous dit que Jacob fut un homme tranquille. Il restait sous les tentes. Mais dans son cœur, il savait aussi qu'il y avait un droit d'aînesse. Il savait que son frère Ésaü avait le droit d'aînesse, mais lui était différent. C'était un habile chasseur, un homme des champs. Voilà ce qu'on nous dit. Et la Bible nous montre qu'Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Alors ça, cette petite note, elle est un petit peu plus désagréable. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Il y avait une petite préférence pour celui-ci parce que c'était à cause du gibier. Et puis Rebecca aimait Jacob, l'enfant chéri de maman, l'enfant chéri de papa. C'est formidable. Et comme les grands-parents n'étaient plus de ce monde, mais sinon, il y aurait ces mêmes choses. C'est là les différences parfois. Il faut qu'on soit sage de ne pas faire de différence. Mais c'est tellement plus facile quand un semble tranquille, quand l'autre est toujours parti dans les champs. Il y a toujours une petite différence. Mais c'est la vie. C'est la vie. Et puis, la parole de Dieu va nous révéler comment Jacob va supplanter son frère, parce que lui, Jacob, sait ce qu'est la bénédiction de Dieu. Il est vrai qu'il ne va pas l'employer d'une manière sincère. Il connaît son frère. L'un et l'autre se connaissent. Et vous avez remarqué, dans les familles, les frères comme les sœurs, quand c'est fusionnel, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Les frères s'entendent, les sœurs s'entendent, la famille s'entend. C'est extraordinaire. Ésaü, quand il est rentré, il dit, mais laisse-moi manger de ce morou, de ce roux-là, car je suis fatigué. Alors, je suis fatigué. Il revenait des champs. Je suis fatigué. Alors, Jacob va lui dire, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondait, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi me sert? C'est drôle qu'on peut se poser des questions. Je suis fatigué, j'ai faim, et puis je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? C'est un homme qui n'a pas la vision du futur. Il a la vision du présent. Il ne vit que pour le présent. Je m'en vais mourir. C'est comme Isaac qui croyait qu'il allait mourir. Il a vécu encore 20 ans. Il avait fait un partage. Mais je m'en vais mourir, à quoi ça me sert? Il n'avait pas d'appétit pour le droit d'aînesse. Il n'avait pas d'appétit pour la bénédiction du Seigneur. Ce qu'il voit, c'est ce potage de lentilles. Potage de lentilles. Potage de lentilles. Je dis ça avec respect, hein. Parce que si chaque habitant de la planète avait un potage de lentilles, ça serait formidable aujourd'hui. Potage de lentilles. Je sais pas, vous savez ce que c'est qu'un potage de lentilles? Hein? Des lentilles qui sont transformées en potage. À une période de ma vie, quand j'étais stagiaire, je travaillais, j'étais représentant dans une grosse firme. Et donc, le midi, je déjeunais au restaurant et le soir, je rentrais à la maison. Et un jour, j'arrête et on prenait toujours les plus petits restaurants. Et j'arrête. Et avant d'entrer dans le restaurant, je regarde le menu. Et au menu, je suis un petit peu surpris. Je vois qu'à l'entrée, il y a de la couleuvre. Et puis ensuite, il y a un plat de lentilles. Ah, je me suis dit à moi-même, couleuvre, anguille de haie, voilà, anguille de haie. Mais j'ai dit anguille de haie, ben, c'est de la couleuvre. Vous savez ce que c'est qu'une couleuvre, hein ? Je me suis dit, je vais être incapable de manger ça. Et puis, je me suis dit, plat de lentilles quand même. C'est pas extraordinaire. Alors, je suis pas entré dans le restaurant. Je suis pas entré dans le serrant. Mais je me suis demandé si, à quelque temps, j'ai pas mangé un peu de serpent dans un endroit de l'Afrique. Mais c'est pas beaucoup d'appétit pour ces choses. Mais lui, il avait faim. Il était fatigué. Et parfois, il peut y avoir des enfants de Dieu qui aussi sont fatigués de la vie des champs, fatigués de courir toujours après, comme Ésaü, le gibier, courir après toute cette vie qui en réalité est incroyable. Vous avez vu que nous sommes toujours, toujours en train de courir. Nous sommes toujours en train de courir. Et parfois, nous n'arrêtons point une minute. Nous courons, nous courons. Nous avons nos agendas, nous avons notre vie professionnelle. Nous avons ceci, nous avons cela. Et nous courons toujours et nous sommes fatigués. Et nous nous posons, mais à quoi nous sert la vie ? Une devise métro boulot dodo. La vie, on ne fait que tourner en rond parfois. On se dit, mais à quoi nous sert la vie? Je vais mourir. Bien sûr que c'est le lot de chaque habitant, de chaque être humain. Nous allons mourir. Je suis fatigué. À quoi ça me sert ma vie spirituelle? À quoi ça me sert d'aller le dimanche au culte? À quoi ça me sert d'aller le dimanche après-midi à l'évangélisation? À quoi ça me sert d'aller à la jeunesse? À quoi ça me sert d'aller à l'heure des enfants? À quoi ça me sert d'aller à la réunion de prière? À quoi? À quoi? Mardi soir, nous avions un très bon auditoire. Beaucoup de frères et sœurs étaient là avec les enfants. J'étais réjoui. Et la veille, même pas, c'est le jour même, le mardi, où on reçoit un appel téléphonique du directeur de cabinet de son Excellence où nous sommes invités. Je peux venir vous rendre visite à Nantes? Oui, oui, venez. Et il est arrivé juste pour l'heure de la réunion, et comme il y avait les manifestations, je lui dis, mais écoutez, ce soir, vous pourriez donner votre témoignage, hein, tout à l'heure. Oui, oui, je peux même aussi prêcher. Je savais qu'il était fils de pasteur, un des premiers pasteurs. Il avait une activité dans son église, dans le groupe de chant. Donc il dit, mais il n'y a pas de problème, je peux 45 minutes. Et on lui a donné 45 minutes. Et nous nous sommes régalés spirituellement. C'était magnifique. Et j'ai retenu deux choses. Bien sûr, toute la prédication. Mais j'ai retenu deux choses. Il dit, quand les frères de Joseph l'ont envoyé en Égypte, ils ne l'ont pas envoyé comme premier ministre. Et puis ensuite, j'ai retenu une autre chose. Il a dit, le diable, il est rancunier. Vous vous rappelez ? Rancunier. Jamais j'avais entendu parler de cela. Rancunier. Et vous savez, quelqu'un qui est rancunier, la rancune est un plat qui se mange froid ou chaud. La rancune est quelque chose de terrible. Et le diable, c'est un rancunier. Ça fait partie de sa vie depuis sa chute. C'est la rancune. Et il est toujours rancunier à l'égard de Dieu, à l'égard de Jésus, à l'égard de l'Esprit-Saint, à l'égard de la parole de Dieu, à l'égard de l'Église de Jésus-Christ, à l'égard d'Israël et à l'égard de l'être humain qui vit en dehors de Dieu. C'est un rancunier. C'est un rancunier. Et bien aimé dans la foi, il est là comme un lion qui rugit, qui cherche sa proie. Et donc, quand nous sommes fatigués, nous pouvons nous poser à quoi ça nous sert, ma vie spirituelle. À quoi ça me sert? Je suis fatigué. Quand je vois, par exemple, dernièrement, un vendredi, 750 Nouveaux Testaments ont été distribués parmi les étudiants. Ils se sont privés de manger, les frères, et ils sont allés sous la pluie, je crois. Mais Dieu soit béni. Dieu soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. À quoi me sert ma vie spirituelle? À quoi me sert ma vie dans ce monde? Oui, je m'en vais mourir. Je m'en vais mourir. À quoi ça me sert toutes ces choses? Alors, je te vends mon droit d'aînesse. Je te vends ma vie spirituelle. Je te vends ce que Dieu m'a donné, je te le vends. La Bible dit, il mangea et but, puis se leva et s'en alla, et c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Il a méprisé les choses. Et après, il a voulu à nouveau en retour pleurer, 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 nous dit l'Épître aux Hébreux, pleurer, pleurer, pleurer. Mais il y a des choses où le Seigneur pardonne. Mais en réalité, il y a des choses qu'on ne peut plus à nouveau avoir. Il nous faut savoir garder les choses que Dieu nous a données. Pourquoi? Parce que Paul disait aux Corinthiens, « Vous ne croyez pas à la résurrection d'entre les morts ?» Comment quelques-uns n'y croient pas? Mais d'ici, vous ne croyez pas à la résurrection d'entre les morts, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Si vous ne croyez pas à la résurrection de votre propre corps et corporel, à quoi vous sert la vie? Servir Dieu? Servir Jésus? Vous êtes les plus malheureux de la vie. Si tout s'arrête à la tombe, vous êtes les plus malheureux. Alors mangeons, buvons, car demain nous mourrons, si tout s'arrête à la tombe. Mais nous savons que rien ne s'arrête à la tombe. Gloire à Dieu. Le corps reste et retourne à la poussière, mais notre âme, notre esprit rentre dans la gloire éternelle de Dieu. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, quelque chose pour conclure. La parole de Dieu nous montre qu'ensuite, son père, lui, croit qu'il a fini avec sa vie. C'est le moment de son départ. Et il va bénir. Et il va bénir Ésaü. Et il fait venir Ésaü, lui dit, « Mais écoute, mon fils, va me chercher un gibier, un mets comme celui que tu aimes, que j'aime. » Et ensuite, je vais te bénir. Je vais te bénir. Mais le père ignore ce que son fils a fait. Et puis, il y avait la maman qui était là. Elle a écouté derrière la porte. Elle aimait son enfant chéri. Quand elle a entendu cela, elle a dit, « Mais son fils Jacob, écoute mon petit, voilà ton frère, il est parti chercher le gibier, il faut que tu écoutes ma voix, mon fils écoute ma voix, tu vas préparer le gibier et tu vas le porter à ton père et ton père il va te bénir. » Oui, mais même s'il a les yeux affaiblis, quand il va passer sa main, il va voir que c'est pas velu chez moi. Quand il va m'approcher, il va bien voir que c'est pas velu. Il va rien voir du tout. Mais ne t'inquiète pas, tu vas mettre ça, Tu vas mettre ça ? Oui, Jacob, l'homme tranquille, a écouté la voix de sa maman. Et on voit que la voix de sa maman a été percutante toujours sur la voix de Jacob. Mais en réalité, on se doit d'écouter nos parents. Mais il y a peut-être des voix qui sortent qu'il ne faut pas toujours savoir écouter. Pourquoi ? Parce que quand Jacob s'est présenté devant son père, « Je t'apporte un gibier, mon père. »« Mais comment se fait-il ? T'as déjà trouvé le gibier ? Oui, c'est l'Éternel qui l'a fait venir devant moi. » Mensonge. On vient chercher la bénédiction. Je ne sais pas comment fonctionnent certains chrétiens. Je ne sais pas comment ils fonctionnent dans leur vie. Hein ? L'Éternel a fait venir ça. Oui, mais c'est la voix de Jacob. Mais non, regarde, approche-toi. Ah ben non, pourtant. Oui, c'est bien Ésaü, mais c'est la voix de Jacob. Eh oui, quand on aime le gibier, hein, l'estomac parle parfois. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh oui, et il va le bénir. Mais quand il vient d'être béni, il y a Ésaü qui arrive, et il n'y a plus rien pour lui. Et là, la Bible dit qu'il va dans son cœur. La haine va venir. La rancune va venir. C'est une véritable tempête dans sa tête. Élie, mon père va bientôt mourir. Mais quand mon père va mourir, je vais tuer Jacob, mon frère. Voilà le projet meurtrier qui vient de naître. Et Rebecca, c'est là qu'elle va dire, je suis dégoûtée de la vie. Parce que Ésaü a pris, mais en réalité, elle a sa part de responsabilité. Et c'est difficile d'admettre sa part de responsabilité. Surtout dans la société dans laquelle nous sommes. Et puis, elle va aller voir son mari, et elle va lui dire, mais écoute, il faut que tu envoies Jacob chez son oncle jusqu'à ce que la colère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Oublier ce que tu lui as fait. Est-ce que Ésaü va oublier ce que on lui a fait? Est-ce qu'il va oublier? Il y a des choses qu'on n'oublie pas, hein. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Et à partir de là, elle dit à son mari, je suis dégoûtée de la vie. À quoi me sert ma vie? Parce qu'elle voit l'effondrement familial. Un jour, il y avait un couple de pasteurs que beaucoup connaissent, qui est un de mes amis. Et c'était la pleine révolution dans notre France, la révolte des ados contre leurs parents. Ils remettaient tout en question, la libération de toutes sortes de choses, tous débridés, enfin vous voyez tout ce que je veux dire. Et puis le garçon s'est mis en révolte contre ses parents, contre Dieu. Et puis, il avait peut-être 18, 20 ans. Puis un beau matin, je ne sais pas si c'était un soir, peu importe, il attendait le train. Le train est arrivé et il s'est jeté sous le train. Il est mort. C'est une terrible épreuve. Et j'ai vu cette maman qui s'occupait aussi dans un foyer qui était vraiment, où c'était les garçons qui étaient vraiment pas par terre, dans la drogue, dans tout cela. Je les ai vus. Et j'étais à la table, il y avait cette dame. Et il y avait un garçon à qui elle parlait, devant moi et à côté de moi, et qui venait de faire une tentative de suicide. Elle lui parlait de Dieu. Elle lui parlait de l'amour de Dieu. Je disais, il y a quelques semaines, elle vient de perdre son fils dans de telles conditions. Elle parle de Dieu à ce jeune homme. C'est extraordinaire. Il n'y avait pas de haine. Il n'y avait rien dans son cœur. Elle voyait ces garçons qui voulaient suicider, qui voulaient mourir. Elle allait de l'avant. Elle ne disait pas « je suis dégoûté de la vie ». Elle ne disait pas « je me renverse, je suis replié sur moi-même ». Puis un jour, elle dit « mais… » Elle parle avec moi, avec nous, et elle dit « mais j'ai 3 enfants, c'est l'échec de la famille, parce que le diable a tout détruit. » Pendant 24 heures, non-stop, j'ai entendu la voix du diable. « Si tu n'arrêtes pas de voyager, je vais détruire ta famille. Je vais détruire ta famille. Seigneur, que jamais je n'arrête de voyager. Que jamais je n'arrête de voyager. » Je me souviens, j'étais en pleine mission sur Toulon. Je prêchais 24 heures avec cette voix satanique. Je prêchais, et il y avait cette voix qui me disait intérieurement, si tu n'arrêtes pas de voyager, je vais détruire ta famille, je vais détruire tes enfants. Seigneur, jamais je n'arrêterai de voyager par la voix du diable. Jamais. Et Dieu a été fidèle, parce qu'il est fidèle. Et moi-même et mon épouse, nous avons été fidèles parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est tout puissant. Qu'il oublie ce qu'il a fait. Qu'il oublie ce qu'il a fait. 20 ans après, Ésaü n'a rien oublié. Ésaü n'a rien oublié. Il vient à la rencontre de son frère parce qu'il sait où est son frère. Et il vient pour le tuer avec 400 personnes. Oui, il vient pour le tuer. Il vient pour le tuer. C'est arrêté. Ça fait 20 ans que ça mûrit dans son cœur. Pendant 20 ans, ça mûrit dans son cœur. Il vient pour le tuer. C'est fini. C'est fait. Dans sa tête, ça fait 20 ans que ça mûrit. Et quand Jacob apprend cela, il est toujours en train de faire ses plans, ça, ceci, mais ses plans n'existent plus. Et un jour arrive où les plans n'existent plus. Et Dieu va rencontrer Jacob. C'est pas Jacob qui a commencé à lutter, c'est Dieu. Un homme lutta. Et voyez-vous, quand il a été frappé de la hanche, ben quand vous êtes frappé de la hanche, hein, vous boitez, hein ? Eh oui ! C'est-à-dire que Jacob en a terminé avec sa résistance. Et la résistance, c'est quelque chose de terrible. Le seul problème que Dieu a avec nous, c'est notre chair. Notre chair, elle résiste. Elle résiste. Notre moi résiste, mais il faut que Dieu frappe. Ah, Jacob, et quand vous êtes frappé, c'est fini. Vous êtes déséquilibré, vous êtes déstabilisé, vous êtes dans l'insécurité. Et là, il faut quelque chose pour s'accrocher. Et c'était fini. Et les deux frères, tout à coup, c'est formidable quand j'imagine ça. Ésaü et Jacob, il se serre dans les bras, il pleure. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Voyez pas ? Quand quelqu'un vient pour vous tuer, eh oui, c'est pas facile. Pas facile. Je termine par ce témoignage. Un jour, c'était à Saint-Nazaire. Et il y a une femme d'artiste qui vivait en concubinage avec un monsieur. Et puis, tout à coup, elle dit, touchée par l'évangile, elle dit, je viens vous prévenir, je quitte le monsieur, je suis converti, mais le monsieur va venir chez vous et il va vous frapper, il va vous casser la figure. Alors un mardi, il était 14h, la réunion était à 15h, j'ouvre, je vois un monsieur, petit, trapu. Monsieur, vous voulez, vous cherchez? Il dit, c'est vous qui avez les valises de mon ami? Je lui dis, non, monsieur. Mais comme je savais qu'il était pour me frapper, je vais prendre les devants quand même. Hein. J'ai pris les devants, hein. Mais je n'ai pas frappé, c'est pas ça quand j'ai pris les devants. Je lui dis, monsieur, vous voulez entrer? Je vais vous offrir un café. Alors, on a bu le café ensemble. Je lui ai parlé du Seigneur. Je lui ai invité à venir à la réunion à 15h. Ah, mais il m'a dit, je peux pas, à cette heure-là, je peux pas, j'ai quelque chose. Mais je vais venir à l'église. Ce monsieur s'est converti, il est venu à l'église, s'est converti. Et vous pouvez dire amen. Hein. Le pasteur Olivier l'a baptisé par immersion. Sa maison n'était pas loin de l'église. Il a mis sa maison à la disposition pour l'heure des enfants, baptisé par immersion, et il est auprès du Seigneur. Eh oui, quand vous êtes averti, vous ne fermez pas la porte et vous claquez pas. Vous voulez prendre un café, monsieur? Mais, oula, s'il m'avait frappé, hein, je vous assure que ça m'aurait fait du mal, hein, parce que je ne sais pas répondre. Je ne sais pas répondre. Et vous non plus, vous ne savez pas répondre. On ne peut pas répondre au coup. Vous pouvez pas donner des coups de poing, vous pouvez pas faire tout ça. Mais il y a la croix du calvaire qui est seule capable de nous faire oublier ce que l'on nous a fait comme mal. Il n'y a que la croix du calvaire qui est capable de faire oublier par le sang de Jésus-Christ, de régénérer nos cœurs. Oh, que Dieu vous bénisse. Elle dit à son mari, je suis dégoûtée de la vie. Et puis il y a eu cette séparation. Elle pensait retrouver ce fils, mais elle est entrée dans la gloire. Vivons au jour le jour pour régler nos problèmes. Et que Dieu nous aide, tout particulièrement. On prie. Gloire à Dieu. So praying, just gonna praise the God of Rhine. Thank your immense praise might. Merci d'être venu sur la terre des hommes. Seigneur, comme tu es venu bénir nos vies, tu es venu mettre de l'ordre là où il y avait du désordre. Nous te prions, Seigneur, pour que des personnes reprennent goût à la vie, qu'ils réalisent que la vie est quelque chose de précieux et que tu veux que nous vivions parce que nous sommes destinés à vivre éternellement. Fais-nous grâce ce soir, que chacun reprenne courage. Seigneur, toi, tu n'oublies pas ce que l'on a fait à ton Fils. Toi, tu es le Dieu d'amour, et par ton Fils, nous sommes purifiés, sauvés, régénérés. Tu es le rassembleur, le réconciliateur, et nous te prions de renverser, nous renversons les projets du diable, dans le nom de Jésus, ramène un garçon, ramène une fille, ramène un homme, ramène une femme, ramène les cœurs, Seigneur, à la conciliation, à la réconciliation. Dieu d'amour et Dieu de grâce, fais grâce. Amen. Amen.